On va commencer par, ça peut être différents sujets, mais on va essayer aussi de rapporter des sujets qui nous concernent à tous, c'est très important, qu'on a appris dans la méthodologie quand on étudie avec nos méchères, et aussi qu'on va essayer de lier aux affaires contemporaines, inshallah. D'accord ? Et je voulais commencer par un verset du Coran de sourate Al-Ankabout que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu wa liyalamanna al-kadhibin. C'est les premiers versets, les trois premiers versets de sourate Al-Ankabout, sourate l'araignée. D'accord ? Cette sourate a un nom chez les mashaykh. Elle est appelée sourate Al-Ankabout, elle est aussi appelée sourate Al-Fitan. Pourquoi ? Parce que c'est une sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il parle beaucoup des fitans. Comme par exemple sourate Nahl, les abeilles, elle est aussi appelée sourate Ni'am, la sourate des bienfaits. Il faut savoir que les sourates, elles ont souvent plusieurs noms. Plusieurs noms. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction du sens, Alif Lamim, puis selon la traduction du sens est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver ? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Alors quand on revient au verset, oui, là, c'est pour ça les grands français, moi je ne suis pas trop d'accord, mais on est obligé. Et à la base, pour les frères qui connaissent ma da'wah il y a presque 30 ans, j'interdisais les courants français, on ne disait jamais des courants français. C'est à l'époque on était un peu chouïa. Il n'y a pas de courants français. Walou, Daoud il est là, demandez-lui, c'est un ancien de la Belgique, machallah. C'est comme ça qu'il a appris l'arabe, jamais de français. Il a appris business muskin. Il n'y a pas de français. Interdit. Et après, avec le temps, on a compris que c'était pas possible. Les gens, il faut faire du français. Avec les frères, il faut la langue arabe. Regardez la puissance, la force du Coran en langue arabe. Le mot fitna, il a un sens, on va le rapporter. Je vais faire une parenthèse qu'on m'a demandé de le faire par rapport à un point qui va se passer ici au Merkez, qui va être très bien pour les frères. Je ne sais pas si c'est chez les sœurs, mais en tout cas chez les frères, il y a une dora mukathafa de ta'lim l'oral arabia. Il va y avoir une dora en 6 semaines intensive en été, de 6 semaines pour apprendre la langue arabe. C'est 3 heures par jour, 5 fois par semaine. Donc tu as 15 heures d'arabe par semaine, sur 6 semaines, ça fait 90 heures d'arabe. Et il y a 3 niveaux. Moi, ça va même jusqu'à la lecture, pour les frères qui ont pas encore sont débutants, etc., etc. Et donc, si vous voulez les détails au niveau de l'organisation d'inscription, allez vous renseigner chez les frères responsables. Et je profite pour faire d'autres parenthèses. Les frères francophones, surtout français, peut-être un peu belge, mais en Belgique, il y a Merkez Fourqan, et certains endroits en français, certains Marrakech, même s'il n'y en a plus beaucoup. Beaucoup de frères qui ont vécu en France, ils n'ont pas l'habitude de s'organiser autour d'un Merkez. Ils n'ont pas l'habitude de vivre autour d'un Merkez, autour d'une da'wa organisée, autour d'un Mejid où des frères de la Sunna tiennent le Mejid, où il y a des activités faites par les gens de la Sunna. Ici, à Tétouan, la raison pour laquelle on est tous venus, je pense, c'est ça. La raison principale, c'est qu'il y a un Merkez. Donc il est quand même contradictoire de venir pour ça et après ne pas profiter des activités du Merkez. Alhamdulillah, là vous êtes là, alhamdulillah. Mais il y en a peut-être beaucoup qui ne viennent jamais. Peut-être que certains d'entre eux qui sont ici, ils sont la première fois qu'ils viennent. Alhamdulillah, s'ils sont venus la première fois. Mais il faut se lier au Merkez. Et quand on dit se lier au Merkez, c'est pas au mur. Le Merkez, c'est que des murs. Mais il y a des Toulab Ilm ici. Il y a Cheikh Abu Hudaifa, il y a Cheikh Abu Fadl quand il est ici. Il y a d'autres de nos frères qui sont de Toulab Ilm, mashallah, émérites, et qui sont reconnus chez les grands savants. Moi, je vous parle de Cheikh Najmi, je parle de Cheikh Zayed, je parle de Cheikh Mokbel, je parle de. C'est-à-dire que certains d'entre vous n'étaient pas nés, eux, ils étudiaient déjà chez mes chers là. Et ça, c'est ni'ma d'Allah Azza wa Jal d'avoir un merkez de la sunna avec des tullab ilm émérites comme ça, qui ont la capacité, l'aptitude, l'expérience, la sagesse, l'ilm. Ça, c'est ni'ma, une grande ni'ma. Wa ni'ma ida shukirat qarrat wa ida kufirat farrat. Quand tu remercies la ni'ma, elle reste. Quand tu la. Tu ne la remercies pas, elle part. Et la manière de remercier les ni'ma d'Allah Azza wa Jal, c'est de faire en fonction de ces ni'ma, c'est de mettre en pratique. Faut payer ta zakat. D'accord ? Donc ici, vous avez un merkez où vous avez des dourous. Si il y a des dourous qui sont compliqués pour toi, par exemple, il y a Arba'a Nawawi, il y a des Cheikh Abu Hudaifa. Arba'a Nawawi, ce n'est pas un sujet très compliqué. Il y a beaucoup de fawaïd. Parmi les meilleurs dourous auxquels vous pouvez assister, c'est l'Arba'a Nawawi. Ouais, je ne comprends pas. Ouais, si toi, comprends, après, tu vas comprendre quoi en restant à la pelouse à côté ou là, en allant au carrefour. Tu ne vas pas comprendre. Assieds-toi et apprends comme on a tous fait. Il y a un moment, tu dois te mettre dans le bain pour être mouillé. Tu ne peux pas rester dehors et dire je vais te mouiller. Tu dois te mettre dedans. Donc vous avez un merkez ici, vous avez des drouzes langues arabes. Il y a des frères ici convertis qui sont arrivés à pas longtemps. Je dis convertis exprès. Pourquoi? Parce que des frères, ils ont. Non, mais c'est un arabe, il a la. Non, les convertis, ils n'avaient rien. Vous avez presque rien. Ils ont fini le Coran ici, dans ce merkez-ci. Ils ont fini le Coran complètement. Plusieurs qu'on connaît personnellement. On ne va pas dire les noms, mais ils sont connus, alhamdulillah. Donc ça veut dire que ces frères-là, qu'Allah accepte d'eux, ils ont profité quelque part. Tu as fini le Coran, kalam Allah, tu as fini tout le kitab Allah, azza wa jal. Tout le kitab Allah, azza wa jal, plutôt. Mus'haf, tu l'as fini, khalas, la fatih. Donc peut-être que tu es venu, tu n'avais même pas juz'a'ma, ou tu avais quelques ajza, etc. Ça, c'est une ni'ma. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, ils ont plié les genoux, ils sont venus, ils ont sbar, ils ont suivi le programme, etc. Ils ont fait confiance à leurs enseignants, ils ont continué jusqu'à ce qu'ils ont appris le Coran. La même chose avec la langue arabe. Les frères, ils veulent aller là-bas, dans tel pays, des pays obscurs, des pays où des machins, etc. Ah, le Maroc, c'est un pays stable, un pays sécurisé, 4 étoiles, alhamdulillah, mashallah. T'as des frères, t'as un merkez, il n'y a que toi qui ne veux pas au Safi. Donc, en France, c'est niveau chez les responsables pour les cours d'arabe, c'est une occasion en été. Peut-être que tu ne travailles pas, ou tu travailles moins, tu peux t'organiser un peu plus. Non, elle aime. Un peu moins occupé, etc. Mouhim profite, c'est une daura mukatafa, c'est-à-dire intensive, 3 heures par jour d'arabe. Et quand on dit 3 heures, les frères, c'est jamais 3 heures. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des devoirs à la maison. Celui qui fait 3 heures au merkez et qui rentre à la maison et ne fait pas d'arabe, il n'a rien compris. Tu ne vas pas avancer. 3 heures, ça veut dire 8 heures en vérité. Ou la 6 heures. Parce que tu as au moins 3, 4, 5 heures après pour travailler ta matière. Et c'est comme ça que tu vas évoluer. Tous les frères qu'on connaît qui ont avancé dans la langue arabe, ils sont tout le temps dans la langue arabe. Ils conduisent, ils sont dans la langue arabe, ils sont là, encore un peu, ils jouent au foot, ils sont dans la langue arabe. Il est toujours en train de rajah, mourajah, il a toujours un petit calepin, un petit shihaja, il prend un mot, il fait des recherches, etc. C'est comme certains enseignants ici, moi je les ai déjà vus dans un supermarché, je le vois, il marche et il revoit le Coran. Certains enseignants, je ne dirais pas de nom. Il marche, je le vois, je suis derrière lui et il récite le Coran. Parce que lui dit, c'est normal, c'est un temps, je perds mon temps. Pourquoi je perds mon temps? Le temps d'aller jusqu'aux courses, de faire les courses, reviens, j'ai révisé, je ne sais pas combien de choses. C'est comme ça qu'il faut être. Donc ça, c'est un point important. Et rester avec le merkez. C'est-à-dire rester avec le tolab du merkez. Dès qu'il y a quelque chose, revenez au tolab du merkez. Cheikh Abou Hadifa, Cheikh Abou Fadl n'est pas là pour moi, etc. Alhamdulillah, revenez. Revenez aux frères qui sont capables, les frères qui sont expérimentés, qui ont peut-être ton âge à toi, ils vont dans la da'wa et dans le talab l'ilm. Et profiter des doros ici, profiter, je parle des doros en langue arabe. Donc on a dit qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Ahasib an-nas wa ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun » Les savants de l'église du Coran, c'était les grands savants comme Cheikh Ahmed Amin Shouqiti, le grand savant mauritanien, qui a fait « Adwa al-bayan fi tafsir al-Qur'an » du Coran, c'est un tafsir du Coran, de Coran par le Coran, qui est le plus haut degré de tafsir. Puis il y a le Coran avec la sunna, puis le Coran avec Atar Sahaba, et puis le Coran avec la langue arabe. Ça, c'est les quatre manières d'expliquer le Coran. Lui, il a fait un livre qui s'appelle Adwa al-Bayan, où il explique le Coran par le Coran. Il a expliqué le sens de ces versets. Et le sens général, en résumé, c'est que les gens ne seront pas laissés sans être soumis à la fitna, c'est-à-dire sans être prouvés, éprouvés ni testés, en raison de leurs paroles ou croyances. C'est-à-dire, une fois que tu dis Amantu Billah, je crois en Allah Azza wa Jal, ça fait, tu vas être testé, tu vas être éprouvé. Pour voir si tu es véridique dans ta parole ou pas. En sachant qu'Allah il sait déjà. Il faut oublier ça. Allah il sait déjà. Subhanahu wa ta'ala. Sa science elle est éternelle. Au contraire, s'ils disent qu'ils croient alors qu'ils seront testés, et ce de différentes manières, par différents genres de tests et d'épreuves, afin qu'à travers ces épreuves se distingue le véridique de celui qui n'est pas véridique dans sa prétention de croire. La sunna authentique, elle a clarifié que les croyants sont éprouvés comment? En fonction de leur foi, en fonction du niveau de leur foi. Les plus éprouvés étant l'anbiya, les prophètes, puis salihun, les vertueux, thumma l'amthal fal-amthal, puis ceux qui les suivent, etc. Par degré. Les gens de science ont expliqué aussi que le mot fitna, c'est pour ça que je dis que la langue arabe, le mot fitna, en lui-même, il a un sens linguistique qui t'indique à comprendre ici le sens chez les ulama. Il y a plusieurs sens chez les ulama, mais ici, le mot fitna chez les ulama de la langue arabe, il vient du fait de faire passer quelque chose dans le feu. L'ihraq ou bin nar. Et c'est un procédé connu chez les orfèvres, ceux qui travaillent l'or. c'est qu'ils mettent l'or dans le feu pour que le pur se dissocie de l'impur. Mais ça, ça t'indique le mot fitna. Les épreuves, c'est comme ça. Le pur se dissocie de l'impur. Le véridique, il se dissocie du menteur. Et alhamdoulilah, Allah Azza nous a laissé une révélation. Qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a transmis aux sahaba, qu'ils l'ont transmis génération après génération comme ça, de manière authentique et de manière protégée. Jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons nos ulama contemporains qui nous expliquent cette sunna et qui nous expliquent donc même comment se comporter dans les fitaines et c'est quoi les fitaines et comment c'est quoi la sunna quand il y a des fitaines, etc., etc. Donc, on a dit que c'est un processus, c'est de brûler par le feu, comme le font les orfèvres qui passent l'or dans le feu, afin que l'or pur se dissocie de l'impur. Et ce sens linguistique, « al-ta'rif lughawi yu'inuna ala qad yatla l'ikhtibar ou l'ibtila ». C'est une fitna ici, c'est l'ibtila ou l'ikhtibar, le fait d'être éprouvé, d'être testé. يتميز الصادق عن غيره afin que le véridique se distingue de celui qui ne l'est pas. Et parmi les fitaines par lesquelles nous sommes éprouvés, il y a les fitaines de al-bida wal ahwa, les gens des innovations et des désirs et des passions, contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, ainsi que la division qui résulte de leur méthodologie déviante. On la connaît tous, le hadith sur la division, jusqu'à la fin du hadith. Il a mis en garde contre le Khawarij, contre Qadariya, en disant que le Qadariya c'est Majus Hadil Umma, en donnant des caractéristiques très précises. Mais ça, c'est quelque chose que je voudrais que vous arrêtiez un moment. C'est que le ulama, quand ils parlent des Al-Bida', ils ont des A'yan et ils ont des Awsaf. Qu'est-ce que ça veut dire? L'A'yan, c'est des gens spécifiques. Un tel, un tel, un tel, un tel. Et ils ont aussi des Awsaf, des caractéristiques générales. Pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce que toi, si tu étudies les caractéristiques de Al-Bida', par exemple, Haddadiyya, les ulama, ils ont écrit. La Haddadiyya, elle a commencé une secte qui découle du takfir. Ils ont la même shidda, la même dureté, le tachadidoun. Il a commencé avec Mahmoud Al-Haddad, un Égyptien qui vit en Arabie Saoudite. Et il critiquait l'imam Nawawi, Ibn Hajar. Et ils brûlaient les livres de Nawawi et d'Ibn Hajar, qui ont expliqué le Sahih Muslim, qui ont expliqué le Sahih Bukhari. C'est pour ça d'ailleurs que Mohammed bin Hadi, avant que le ulama parle de lui, il avait dit une parole moi qui avait attiré mon attention. Il avait critiqué Nawawi et Ibn Hajar. Et là, moi, j'avais déjà fait un point d'arrêt. Je dis, ah, pourquoi? L'Awsaf. Ça peut être qu'un shérif fasse une erreur une fois. Il va revenir. Il n'est jamais revenu. À ma connaissance, il n'est jamais revenu. D'ailleurs, il a même dit, voilà, Ubali. Il a dit, et je lui dis, et alors? Il a dit que c'était des Asha'ira. Ça, nous, on ne connaît pas de ça de nos mashaykhs. Notre cheikh Mohamed Ahmed Jami, le cheikh de Shirabi, ils ont toujours combattu les gens qui disaient ça. Les mêmes Nawawi, rahimahullah, Ibn Hajar, ils avaient certaines erreurs, mais ils avaient les usul d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Donc, on a Mahmoud al-Haddad. Et Mahmoud al-Haddad, il avait une méthodologie, il avait des caractéristiques, point 1, point 2, par lesquelles il se disait, notamment la critique de l'imam Nawawi, d'Ibn Hajar, une dureté, etc., etc., etc. Les tekfirines, ils ont des spécificités, des caractéristiques. Tablir, ils ont des spécificités, etc. Shia, etc., Rawafid, ils ont des spécificités, etc. C'est-à-dire que toi, même si tu ne connais pas les gens, si tu connais ces spécificités, ces caractéristiques, tu peux reconnaître les gens. Des awsaf. D'accord? Et ils ont aussi des caractéristiques dans lesquelles ils se retrouvent un peu tous. Par exemple, le fait que, comme vous savez, ils ont des leaders aussi. Parfois, leurs sectes, elles sont faites en fonction de leurs leaders. Comme le Qutbiyya, par exemple. Sururiyya. Par rapport à Surur. Qutbiyya par rapport à cette Qutb, etc. Et parfois, ils sont appelés en fonction de leur bid'a. Comme le Qadariyya, comme le Khawarij. Comme le Murji'a et autres, etc., etc. Et les leaders de l'innovation religieuse sont des gens spécifiques, mais leurs adeptes ont des caractéristiques spécifiques par lesquelles on peut les reconnaître. Parmi leurs caractéristiques communes, ce qu'on voit, c'est qu'il a fait de critiquer les savants de la sunna. Dire certains salafs, ils ont dit « Min alamat al-bida' al-waqi'atu fi ahli al-athar ». Parmi les signes des gens de l'innovation, c'est le fait qu'ils critiquent les gens du athar. Toi, tu vois, par exemple, nous, on a des symboles, des étoiles comme ça, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Athaymi, Cheikh Al-Albani, Ibn Taymiyya, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, etc. Des grands savants comme ça. Si toi tu vois quelqu'un qui les critique, ça fait, tu sais de quelle partie il fait, tu sais qui c'est. C'est quelqu'un qui fait partie des gens d'innovation. Il parle en mal de ses ulama là. Pour nous, c'est une ligne rouge. Et ici, à Tétouan aussi, c'est une ligne rouge. Si tu parles sur nos savants, sur Abd al-Bukhari ou d'autres savants, c'est une ligne rouge. Ça, il faut comprendre ça. C'est-à-dire, si tu passes la ligne rouge, tu vas être conseillé. Et si tu es conseillé que tu n'écoutes pas, tu vas devoir partir ou tu vas devoir aller ailleurs. C'est simple. Pourquoi ? Parce qu'il faut protéger la jama'a. Il faut protéger. Quelqu'un qui ne comprend pas, alhamdulillah, et qui cherche le haq, il va comprendre vraiment si on lui explique que ce n'est pas un problème. Mais celui qui s'entête, il y a tabanna al-amr, c'est-à-dire qu'il il croit fermement, il ne veut pas écouter, etc. Et il critique certains ulama comme Cheikh al-Bukhari ou d'autres savants, etc. Et qu'il reste sur le faux, il persiste dans le faux. Il y a un moment, il faut préserver le merkez, il faut préserver la jama'a, il faut préserver les frères, il faut préserver les sœurs, il faut préserver les enfants, il faut préserver tout le monde. D'accord ? S'il veut faire l'électron libre, il n'a qu'à le faire l'électron libre ailleurs. D'accord ? Et donc ici, il a fait de critiquer les savants de la sunna et surtout de s'efforcer à couper le lien entre les gens et les savants de la sunna. Ils font que tu ne veux plus retourner à ces savants-là. Soit en les dénigrant, hein, soit en te renvoyant vers d'autres gens que eux ils te font croire que c'est des grands savants alors qu'en fait ils ont la mahalaoum et l'arabe, ils ont aucune fonction là, dans la phrase grammaticale. Ils sont sortis il n'y a pas longtemps, leur nom est apparu parce qu'ils ont fait une fois un rad, hein, qui était répondu pour tout ça, et c'est cheikh un tel de tel pays, toi tu sais même pas le mettre sur la carte télé ou ce pays là et d'un coup ça devient une référence, subhanallah. Et ces références-là, maintenant, ils critiquent des gens que nous, on connaît depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'on connaît. Subhanallah, que nos ulama, déjà à l'époque, ils étaient avec eux comme Cheikh al-Bukhari, par exemple. Donc, ils utilisent des différentes ambiguïtés, des shubuhat, différents stratagèmes. Et ça, c'est vrai encore plus dans les nawazil. Dans les nawazil. Alors, c'est quoi le nawazil ? Je ne vais pas faire trop long aujourd'hui, Inch'Allah, mais on va juste rapporter la définition de nawazil. La prochaine fois, on continuera, Inch'Allah. Alors, la question a été posée à Cheikh Arafat, hafidahullah ta'ala, sur c'est quoi la définition de la nazila. Il a dit, dans le sens de la question, c'était quel est le sens de nazila ? On va traduire de manière très vague par calamité, situation exceptionnelle. Il dit, la nazila, est-ce qu'il survient à l'ensemble des musulmans ? On va parler de Cheikh al-Bukhari, Cheikh al-Bukhari, Cheikh Abbas al-Abbad. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, il y a presque une trentaine d'années, il y avait, ou même plus, il y avait une mis'ala en France sur le hijab. Et la question a été posée sur Hachar Abdallah. Pour demander à Hassan, il va confirmer cette histoire, Hassan Abou Asma, Hassan Abou Ahmed. Et d'autres frères qui étaient à Médine à l'époque, qui connaissent le Mashir de Médine. Et ils ont posé la question à Cheikh al-Bukhari. Cheikh al-Bukhari, il a dit, ça c'est une nazila, il a dit, ça touche une communauté. Et il a demandé, je vais demander à mon cher, il a demandé à Cheikh Hassan Abdallah. Regardez le tarbiya. Il a demandé au grand savant, Cheikh Mohsin Al-Abbad. Pourquoi il a dit, je ne peux pas répondre, ça touche une oumma, c'est une communauté. C'est-à-dire que chacun il a son degré, ça, je parle d'à l'époque. Entre-temps, Cheikh Abd al-Bukhari lui-même il est devenu un savant. D'accord, mais pour vous montrer que les ulama, ils connaissent les tabaqat. Le tolabim, ils savent qui. Hein? Par exemple, quelqu'un, il a deux traductions en anglais sur Internet. Hein? Il a un doctorat en je ne sais pas quoi, en mécanique ou en pharmacie, il le met au même degré que Cheikh Abd al-Bukhari, même plus haut. Yani, ajib. Ajib. Alors que le frère, peut-être, il y a ta'a'a'a'a dans la langue arabe, hein, et tu lui donnes peut-être le mushaf, il ne sait pas lire correctement, même s'il a des juhoud dans la da'wa dans sa langue, walakin, subhanallah, c'est devenu un marja. Même plus, au détriment de Cheikh Abd al-Bukhari, qu'on accepte des critiques contre lui ou d'autres machirs, etc. Yani, c'est quelque chose de pas normal. Nous, on ne doit pas accepter des choses comme ça. Et donc, il dit, c'est ce qui survient à l'ensemble du musulman, de sorte qu'il est nécessaire que les grands savants, regardez ce qu'il a dit, les grands savants l'examinent. C'est-à-dire qu'il y a des sujets où tu ne peux pas parler, même si tu es un chir. Parce que tu n'es pas du niveau des grands savants. Il y a certaines masaïl où ce n'est pas n'importe quel savant qui parle. D'ailleurs, il y a même certaines masaïl, qu'on va voir dans un instant, comme par exemple le Corona, Covid, ou même certains grands savants, ils ont retiré leur fatwa quand, par exemple, l'Ifta, il a parlé. Parce que là, ça y est, là, c'est l'Ifta qui parle. C'est les kibar ulama avec une sifaras miya d'un pays qui parle, ça fait khlas. Cheikh, là, je retire ma fatwa, ça y est, c'est... Et moi, je suis au fin fond de je ne sais pas quel pays, l'Écosse ou la Luxembourg, je ne sais pas, dans mon truc. Et j'écris, je tape tous ces ulama là. Et je suis suivi par une umma. Une umma, quand même, la tabane. Ah ouais, 300 pages en Covid. Mais c'est Covid, c'est quand même c'est importante comme ça. Covid, c'est une nazi. Là, les ulama, ils ont fait fatwa. Khalas. Toi, tu fais un vaccin, tu le fais. Tu ne veux pas faire un vaccin, tu ne fais pas. Tu ne veux pas faire un vaccin, tu as un hizbi. C'est quoi ça? Même le vaccin, on va se disputer sur un vaccin. Le vaccin, on n'a rien trouvé d'autre. Même le vaccin, on va se disputer dessus. T'as fait un vaccin, tu l'as fait, akhi. Peut-être t'as raison. Allah alam, subhanallah, peut-être que tu voulais le faire, peut-être que tu es mqtani' de la science derrière, ou là, peut-être que tu devais voyager, ou là, peut-être que tu devais, je sais pas moi, ou tu étais obligé pour ton travail, ou là, chez Hajj, etc. Moi, j'ai pas voulu le faire, par exemple, khalas. Même là-dessus, on va se diviser. On n'a rien d'autre à faire, on n'a rien d'autre à faire. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, on sourit, mais c'est ce qui se passe. Il y a des gens, ils en ont fait comme la mis'ala, et ils ont, même mis'ala, ils sont arrivés à même critiquer l'ulama. Ah, l'ulama, ils ne connaissent pas le waqa. Moi, la première fois que j'ai entendu ça en Angleterre, un frère, il est venu chez moi, il m'a dit, « Ah, il y a des gens qui disent, moi, je savais très bien qu'ils disent ça. » Il m'a dit, « Il y a des gens qui disent que l'ulama, ils ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de Covid. » Je dis, « Habes, ces gens-là que tu dis, moi, je sais que c'est des frères salafis, je ne vais pas dire de nom, mais je sais de qui tu parles. » Moi, je dis pas, je parle pas sur ces gens-là. Cette parole, c'est la parole des ikhwan musulmans. C'est la parole des harakim. Les ulama la yafqahoun al-waqi'. Cheikh l'Albani avait une belle réponse motela. Il disait, na'am, mumkin les ulama la yafqahoun al-waqi'. Walakin ya'lamoun hukm hada al-waqi'. Ils connaissent le hukm de ce waqi'. Donc on a dit ici, ils étudient les ulama al-kibar, la réalité, la manière dont elle s'est produite, les éléments qui relèvent de la législation et quelle est la fatwa à ce sujet. Les ulama étudient. Nous, on essaie d'étudier un peu, on croit que les ulama parlent comme ça. Les ulama, un truc que Cheikh Abdul Bukhari et d'autres mecs nous ont appris, ils disent les ulama, il a takallamu, takallamu an ilm, ou il a sakatu, sakatu an ilm. Les ulama, quand ils parlent avec science et quand ils se taisent en se basant sur une science aussi. C'est pas parce qu'il s'était que toi tu sais mieux que lui. Il s'était parce que lui il sait pourquoi il s'était. Mais toi tu sais pas pourquoi il s'était. C'est pour ça que lui c'est un savant, toi t'es un ignorant. C'est simple, c'est comme ça. Donc Allah Azza wa Jal, Cheikh Al-Albani dit que Allah Azza wa Jal il a divisé les gens en deux. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Dail c'est quoi? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yani alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun. Il y a deux catégories de gens. Et il y en a un, il est obligé de répondre et un, il est obligé de vous questionner. La Nazila est donc un événement, elle est nouvelle pour les gens. C'est une nouvelle affaire qui touche les gens, qui tombe sur les gens, et c'est les grands savants qui doivent en parler. Elle peut aussi comporter une certaine gravité. Les savants doivent alors exposer quels sont les jugements religieux qui incombent aux musulmans dans cette Nazila. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a une Nazila, bien les gens se sont retournés vers qui? Les gens, alhamdoulilah, qui savent ce qu'il faut faire, ils se sont retournés vers les savants. Et alhamdoulilah, ça a évité à beaucoup de gens de tomber dans des fitanes. Beaucoup, beaucoup. Quand à l'époque il y avait la guerre du Golfe, hein, etc. Ah, les gens ils sont rentrés, ouais, il faut faire hadith, je sais pas quoi. Là. Mais chers, ils ont fait fatwa, ils ont parlé, etc. Ça fait khlas, manager les wadah. Quand il a fitna en Syrie, etc. Kada. Shabab Msakin, comment ils sont partis d'Europe, Mshaoudaou Msakin, Tumba, hein. Ils sont partis, ils ont écouté Tikfirin, ils ont écouté le Khawarij, ils sont partis d'Aoudaou, d'Aoudaou, Anfoussam, Aoudaou, Oussarahoum, Aoudaou, Kulleji. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu eux-mêmes, etc. Tandis que les ulama, ils ont parlé. Ils ont dit, Hadi, Qital Fitna, Hadi Fitna, Hadi, c'est le Khawarij, etc. Alhamdulillah. Mais c'est pas n'importe qui devait parler dans ces sujets-là. Donc ici, il dit ici, les savants doivent exposer quels sont les jugements religieux qui incombent aux musulmans dans cette nazila. Ils en informent une conception correcte, identifient le point de divergence, l'étudient, examinent ces cas analogues, puis se concertent et émettent la fatwa à ce sujet. Car souvent, les ulama se concertent. Surtout quand c'est des organismes officiels comme dans l'Ifta en Arabie Saoudite, etc. Imaginez des grands ulama ensemble dans un comité, ils se concertent. Et toi, tu vas savoir mieux que... Par exemple, par rapport à Covid, il y a eu les mosquées, la distanciation, le port du masque, ainsi que l'absence de mélange et d'éloignement, tout cela. Tout cela relève de questions religieuses. À qui doit-on demander? On demande aux gens de spécialité qui sont les savants. Il y a des gens qui ont même jusqu'à dire que la distanciation, c'était quelque chose qui ne fait que par un sebeb qui n'existe pas. Donc c'est comme du shirk. Vous voyez jusqu'où on va? C'est qui a fait cette fatwa? C'est les grands ulama qui ont fait cette fatwa-là. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant. Je pense que vous êtes tous assez âgés pour avoir vécu Covid, ça, oulala. Hein? Et allez, c'était le monde rire, allez, l'alam t'a rire. Tout a changé dans le monde, beaucoup de choses ont changé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, les gens de bien? Ils ont fait quoi? Ils ont entendu les paroles de ulama. Raja, où est l'ulama? Et quand tu es dans un pays, tu dois respecter ce qui s'est dit dans le pays. Tu ne commences pas à amener des choses d'ailleurs, etc., à imposer des choses d'ailleurs, etc. Et c'est comme ça que la jama'a elle reste soudée. Donc quand il y a un pays où des hukam, tu respectes la vie des hukam et tu respectes la vie de Wulat l'Omour. Et tu n'as pas le choix d'ailleurs. Donc on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on continuera peut-être sur certains exemples, comme par exemple le fait de qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Covid, quel est le précédent sur les ulama qu'ils ont utilisé comme Omar al-Khattab quand il a fait face à la peste. Et c'est de là qu'ils ont tiré des textes et des choses à faire, etc. Hein? Pourquoi ils ont fait ce genre de fatwa? Et le retour au savant dans le Nawazil et d'autres sujets, Inch'Allah. Et on va faire la comparaison avec d'autres sectes comme Sururi, Al-Qutbiya, etc. Inch'Allah. Wallahu a'lam, jazakumullahu khairan, wa subhanakum wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Il y aura d'autres sujets, Inch'Allah, mais on va essayer de faire des sujets qui nous touchent de manière précise aujourd'hui. Bidnillahi ta'ala.